Jonathan, avant d'aller rejoindre notre prochaine invité, petite mise au point concernant l'histoire d'espion des vedettes.
Ouais, voilà, Pascal Desgagné, 45 ans de Québec, qui a été formellement accusé de 7 chefs d'accusation.
Dont espionnage de vedettes.
c'est pas stipulé comme ça, mais ça peut ressembler à ça. Sachez que tout à l'heure, Julie nous mentionnait qu'il ne pouvait pas utiliser une connexion Internet de Vidéotron.
Parmi les conditions qui lui étaient imposées par le tribunal.
C'est plutôt l'inverse. Seule connexion Internet qu'il pourra utiliser, c'est une connexion Vidéotron. Ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'il pourra continuer, parce que souvent, quand il y a des situations comme celle-là, on interdit aux gens de pouvoir utiliser des connexions Internet, sauf que lui travaille dans le domaine des TI. Donc, on pouvait pas vraiment lui empêcher d'avoir accès à Internet. Donc, on lui dit, notamment pour le travail, vous pourrez utiliser une connexion, mais seulement Vidéotron.
Ah bon? C'est que là, je me pose pas les mêmes questions tout d'un coup. Je me dis, est-ce que la connexion de Vidéotron est plus sécuritaire que les autres?
Je le sais pas.
Ou est-ce que c'est facile de surveiller quelqu'un quand on sait avec qui, chez qui il est client? Je sais pas trop.
Ces victimes étaient-elles toutes des abonnées de Bell et c'est comme ça? Parce que je vous rappelle, Véronique Cloutier travaille pour qui? Travaille pour Bell. Pour une station de radio qui appartient à Bell. Est-ce que là, son forfait, tu l'as? Mais là, on rentre vraiment, dans les détails.
Ouais.
De ce pas, on va se tourner vers notre prochaine invité, puisque la COP25 se déroule ces jours-ci du côté de Madrid, en Espagne. Les représentants de 195 pays sont réunis afin de trouver une façon de donner, en quelque sorte, un second souffle à l'accord de Paris signé en 2015. Et on comprendra, personne n'est contre la vertu, sauf que c'est souvent dans la manière de l'atteindre que ça se complique, et le diable est vraiment dans les détails. Pour essayer de se démêler un peu, sachez que le Québec est fortement représenté, alors qu'il y a des élus des trois partis d'opposition qui ont fait le voyage avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, et parmi eux, justement, pour se démêler, on va parler avec le député de Jonquière, critique en matière d'environnement et candidat à la chefferie du PQ, Monsieur Sylvain Gaudreau. Et avant d'aller lui parler, je dois faire une mise en garde.
Je t'écoute.
Monsieur Gaudreau est l'un de mes anciens professeurs de cégep. Donc, je vais tâcher de ne pas être trop complaisant dans mes questions. Bonjour, Monsieur Gaudreau.
Salut, écoute, ça prouve que tu es un très bon animateur, puis tu as eu des excellents profs.
Ça part bien.
Monsieur Gaudreau. C'est bien de dévoiler ton conflit d'intérêts au point de départ.
Ben voilà, je l'ai fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Monsieur Gaudreau, expliquez-moi d'abord pourquoi vous avez tenu à faire le voyage. Vous ne faites pas confiance à la CAQ puis à Monsieur Charrette?
Ben, je dirais que c'est une tradition, certainement depuis la COP 21 au moins, là, donc celle de 2015 à Paris, où le ministre ou le premier ministre, quand il est présent, est accompagné des représentants de l'opposition, parce que il y a quelque chose de non-partisan dans la lutte contre la crise climatique. Il faut que ce soit tout le Québec qui se mobilise. Le fait qu'il y ait des représentants de tous les partis symbolise ça. C'est sûr que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'en profite pour passer des messages, pour pousser dans le dos du ministre pour qu'il aille plus loin, plus vite et mieux. Mais c'est correct, ça se fait correctement. Puis sur la scène internationale, il faut quand même pas non plus qu'on montre de la chicane de famille. Donc, on est capable de s'entendre puis de travailler ensemble, mais de passer subtilement des messages.
OK, parfait. Dites-moi, justement, en parlant de M. Charrette, hier, il a fait valoir que le Québec était prêt à réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre pour 2050. Croyez-vous que c'est peut-être un peu trop tard? Certainement pour vous que ce sera un peu trop tard.
Ben, j'ai senti un peu de confusion dans le discours de M. Charrette à cet égard-là. Parce que il y a des cibles qui ont été fixées pour 2020. Ça, c'est moins 20% de GES sur la base de 1990.
Mais on les atteindra
pas. 2020, c'est dans un mois, là. Dans trois semaines, on les atteindra pas. Ça, c'est sûr. On est à moins 9 à peu près.
Okay.
Au lieu de moins 20. Après ça, on a celle de 2030 qui est de moins 37,5%. Puis on a celle de 2050 pour laquelle le Québec a déjà dit qu'il voulait les atteindre, là, qui est de 80, c'est pas mal la même chose au niveau international, c'est de 80 à 95 % de moins pour 2050. Fait que je sais pas comment il peut augmenter moins 95 %, là. Alors, j'ai senti un peu de confusion dans son discours. Il va falloir clarifier ça, mais ce qui compte surtout, au-delà des chiffres et des cibles, c'est qu'on se donne les moyens de les atteindre. Et présentement, là, c'est ce qui fait défaut, là.
Dans tout le débat de la lutte sur le GES, il y a un argument qui revient souvent. Le Québec est une goutte d'eau dans l'océan. Qu'avez-vous à répondre aux gens qui, justement, pensent ça et puis qui disent pourquoi nous devrions faire des efforts, dépenser de l'argent, payer une taxe carbone, alors que les plus grands États pollueurs, eux, ne semblent pas faire l'effort?
Ben, c'est parce que par capita, là, ou par tête de pipe, si on veut, là, les Québécois sont parmi les plus grands émetteurs de CO2 dans le monde, là. Avec les États-Unis, avec le reste du Canada, avec les pays occidentaux. Donc, c'est sûr que on peut se comparer à la Chine, puis on peut se comparer à l'Inde, là, mais ils ont des milliards d'habitants, là. Fait que si on y va par habitant, les Québécois émettent beaucoup plus de CO2 par capita.
Ouais, mais Monsieur Boudreau, il demeure que le problème c'est la totalité des gaz à effet de serre là, qui sont dégagés sur la planète Terre. Donc même si par capita on en dégage plus qu'ailleurs, il reste que même si on changeait là tous nos comportements du jour au lendemain, l'influence sur la planète est minime là.
Ben oui, mais c'est pas une raison pour rien faire là. C'est comme C'est un devoir international, c'est un objectif international. Nous avons, par exemple, une très grande consommation. On a augmenté de façon exponentielle nos achats de SUV, par exemple, depuis les 20 dernières années. Alors, on ne peut pas rien faire. C'est comme si on dit mon voisin fait du bruit. Puis il y a une plus grosse maison, fait que moi je vais faire du bruit aussi. Tu sais, je veux dire, tant qu'à ça on n'arrivera à rien. Là.
Ok. Mais pensez-vous que
être exemplaire à cet égard.
Pensez-vous que la COP25 est le bon événement, le bon lieu pour convaincre le voisin à la grosse maison de baisser un peu le volume?
Ben oui, parce que c'est l'événement avec un L apostrophe majuscule là, international annuel sur la lutte contre les gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d'événements entre les deux là. Ça se parle à tous les jours, à toutes les semaines là, dans chez les négociateurs. Mais l'événement qui réunit tout le monde, c'est la conférence des parties, c'est la COP. C'est une fois par année. Tous les pays sont là. C'est pas pour rien que quand Donald Trump s'en est retiré l'année passée de l'entente de Paris qui a été convenue par M. Obama en 2015, ça a été un choc là, parce que tous les pays sont présents et c'est important que le Québec y soit aussi parce que il y a un grand rôle qui est accordé aux États, ce qu'on appelle les États subnationaux. Moi, je serais d'avis que le Québec devrait être un pays, là, mais c'est pas encore le cas. Mais en attendant, les États subnationaux comme le Québec, comme la Californie, comme d'autres États, je pense à l'État de Washington, à l'Oregon, donc des régions qui sont pas des pays, ont un rôle important à jouer quand le gouvernement fédéral n'agit pas assez vite. Là. C'est particulièrement le cas aux côtés des États-Unis.
Il y a de ça quelques jours, vous avez mentionné qu'il faut éviter une crise sociale avec la transition verte. Ce que j'ai trouvé intéressant pour éviter en quelque sorte ce que l'on vit avec les gilets jaunes du côté de la France, mais jusqu'à présent, estimez-vous que la population au Québec là, a été bien renseignée des impacts sur leur quotidien de la lutte au GES, puis qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour informer les gens, et ça va avoir justement quel impact sur nous?
Ouais. Ben, c'est une très bonne question. Puis moi, c'est le discours principal que je tiens à la COP, puis sur lequel je mets de la pression là, sur le ministre. Là. C'est ce qu'on appelle la transition juste. Donc, il va y avoir une transition écologique, une transition économique, une transition énergétique vers une économie sans carbone, ce qui est une bonne nouvelle. Et l'enjeu, c'est que les travailleurs et les travailleuses des industries plus sensibles, plus fortes émettrices de CO2, ben au lieu d'être des spectateurs du changement, soient des acteurs du changement. Et pour ça, ben il faut travailler en amont, il faut les inclure. C'est les premiers spécialistes là de leur technologie. Je pense par exemple à l'industrie du papier dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est émetteur de CO2. Bon, ben c'est les premiers concernés, ceux qui connaissent le plus la technologie, c'est les travailleurs. Il faut qu'ils soient dans le coup. Il faut que les entreprises investissent dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux produits à faible émission de carbone, pour que tout le monde soit dans le coup, puis qu'il n'y ait personne qui soit laissé sur le côté et qui se sente abandonné. Ça, là, c'est ce qu'on appelle, en tout cas dans mon langage à moi, la polarisation puis la confrontation, puis ça conduit au gilet jaune, donc des gens qui se sentent abandonnés par l'État, qui se sentent abandonnés par les plus puissants, qui se sentent abandonnés par les dirigeants des multinationales ou des dirigeants politiques. Donc, pour éviter ça, c'est ce qu'on appelle la transition juste. Puis il faut qu'on s'y mette tout de suite. Et je trouve que le Québec a un beau profil pour y arriver parce que on est habitué avec des instances de concertation au Québec. Là. Tu sais, je veux dire, on est les seuls au monde qui a fait une révolution tranquille. On a plein de sommets. On a eu des sommets sur l'emploi, sur l'économie, sur l'éducation. Donc, on serait capable de faire ça correctement.
Monsieur Gaudreau, tant qu'à vous avoir au bout du fil, je peux pas m'empêcher de vous parler de la course à la chefferie du Parti québécois. Et à moins que je ne me trompe, vous êtes toujours le seul candidat à avoir officiellement levé la main et démontré votre intérêt, le seul candidat en liste, c'est bien ça?
Oui.
Et là, ma question, préférez-vous affronter un autre politicien d'expérience, un jeune ou un humoriste?
Mais ça, c'est pas une question qu'on pose à un candidat, là, parce que moi, je suis dans un état d'esprit pour gagner.
Ouais, okay? Je comprends.
Quand j'ai pris la décision d'y aller, là, moi, je contrôle pas qui va se présenter. Moi, je peux juste essayer de contrôler ma campagne, mes idées, mon équipe, les gens qui m'appuient. Je peux pas contrôler les autres. Fait que moi, là, qu'on soit un, qu'on soit deux, qu'on soit dix, moi, je suis là pour gagner. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là que je suis. Puis s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à la course, ben tant mieux. Puis s'il y a du nouveau monde, ben ça démontre que le Parti québécois attire puis qu'on attire des gens de qualité. Fait que moi, je suis prêt à débattre sur cette base-là. Puis je suis confiant que je vais gagner au final.
C'est bon. Ben je vous remercie beaucoup, M. Gaudreau, d'avoir été avec nous ce midi.
Ben merci. Puis tu fais bien ça depuis le cégep.
Merci, M. Gaudreau.
Merci. Au revoir.
Tu passerais ton cours. Salut.
Merci, bye.
Tu as remarqué d'ailleurs qu'il t'a donné un petit cours. Hein? Il t'a pitché une petite leçon de professeur. Oh, ben, on pose pas une question comme ça.
La
réalité, c'est faux. On pose cette question-là. Il faut poser des questions. Mais il faut aussi penser que les politiciens répondent rarement aux questions quand ils ont parlé.
On n'a pas sorti le buzzer, hein? On aurait dû.
Ah, c'est Sylvain Gaudreau, député de Jonquière au Parti québécois, en direct de la COP25 à Madrid à qui on parlait.